Radio Libertaire 89.4.
Il porte un drôle de nom, Romeo, Romeo Machado. Il est beau, Amazonie colombienne, c'est bien là qu'il est né dans des cartons à Laetitia. À New York City et ça brille pour les vifs qui n'ont pas froid aux yeux. Ils pourraient vivre heureux, mais une fille sicilienne, grande famille, dangereux. T'es loin, Spanish Harlem, Romeo, mais tu y vas quand même, Romeo. Tu marches en balançant une salsa, un succès d'Ismaël Miranda. T'es très bien habillé, au gentleman, un peu exagéré, au Manhattan. Jouer les jolis cœurs, ça se mérite chez les gros Siciliens, Canal Street.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est donc l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un psychiatre, mais un psychiatre de l'antipsychiatrie. Française, j'ai nommé Roger Gentis, voilà. Et aujourd'hui, on est avec Sylvie du groupe d'Ivry de la Fédération anarchiste. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Et donc, on a relevé des extraits du livre Les murs de l'asile de Roger Gentis et nous voulions vous en lire quelques passages et les commenter.
Denis, déjà, est-ce que tu pourrais nous présenter Roger Gentis?
Oui.
Donc ce livre, déjà, il date de quand? C'est quoi un peu le parcours de Roger Gentis?
Oui. Alors, Roger Gentis, c'est un... Gentis. Un psychiatre formé à Lyon et qui rejoindra en 1952 l'équipe de l'hôpital de Saint-Alban en Lozère. L'hôpital psychiatrique qui, durant la Seconde Guerre mondiale, sous la direction de Lucien Bonafé et du psychiatre Francesco Toscaies, résistera à la liquidation par la faim de milliers de malades abandonnés dans la France de Vichy par l'institution psychiatrique censée les protéger. Donc il est né en 1928 à Saint-Étienne, dans la Loire, et il est mort le 1er août 2019. Alors, approche d'humanisation, l'institution psychiatrique, quand Roger Gentis prendra en 1964 la direction du centre de formation des élèves infirmiers au CHS de Fleury-les-Aubrais, pour lequel il passera beaucoup de temps à superviser l'enseignement et à le faire évoluer. En plus de ses activités au sein de l'institution psychiatrique, il se consacre à une production de livres considérables qui contribuèrent à modifier la perception de la maladie mentale dans son rapport à la société, avec des ouvrages parmi lesquels Les murs de l'asile, Les schizophrènes, Naître, être comme être ou ne pas être, ou Les leçons du corps. Mais il y en a encore beaucoup d'autres. Ça, c'est un petit, vraiment un résumé très, très sommaire. Le CRPA, le Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie, à sa mort, avait fait un hommage, avait écrit un hommage en août 2019. Décès du docteur Roger Gentis, un des animateurs de l'antipsychiatrie française des années 1970. Les murs de l'asile, ce pamphlet de Roger Gentis, publié en 1970 par François Maspero, a été un des ouvrages catharsis de la période antipsychiatrique française. Avec quelques autres ouvrages, Roger Gentis a permis que la parole se libère, que les choses se disent là où elles étaient verrouillées. C'est l'un des ouvrages de référence de la période antipsychiatrique française. Précisons tout de même, ajoute l'auteur de cet hommage, André Bitton, précisons tout de même que les différents courants de l'antipsychiatrie ont été des courants de professionnels de la psychiatrie, et qu'il a fallu ces mêmes années 1970 des coups de force successifs pour que des psychiatrisés puissent avoir voix au chapitre en dehors du rôle du schizophrène très tendance ces mêmes années. En effet, on faisait aussi, avec Deleuze Guattari, l'éloge de la schizophrénie. Voilà. Alors, on peut commencer peut-être à lire quelques extraits, ou alors peut-être...
Ben, moi, je peux peut-être déjà dire aussi ce que j'ai, puisque c'est toi qui me l'as conseillé, prêté, comment je l'ai ressenti, quoi, globalement, avant que tu lises des extraits un peu significatifs. Moi, personnellement, j'aurais surligné quasiment tout le bouquin, tellement je pense que c'est vraiment très très dense, très très dense, vraiment très intéressant. Et ça m'a beaucoup fait penser, il m'a fait beaucoup penser à Patrick Declercq dans sa vision des choses, à savoir que quand on critique les traitements psychiatriques, c'est que, enfin c'est la poule et l'œuf, mais enfin, ça conduit à critiquer la société, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on voit dans le livre, comme pour Patrick Declercq, l'auteur des Naufragés. Et puis, vice-versa, quand tu es critique de la société, tu vas avoir une vision de la déviance et du traitement, entre guillemets, de la déviance, ou du est-ce que vraiment c'est quelque chose qui doit être traité? Tu vois, est-ce que c'est vraiment... Enfin, voilà, est-ce que c'est une pathologie
Le terme même de déviance est assez...
Je voulais le mettre entre guillemets. je fais des crochets avec mes doigts, mais ça se voit pas à l'antenne.
D'accord.
Mais voilà, en tout cas, de ce qui est perçu comme déviant, c'est la notion... Ça renvoie à la notion de normalité, de toute façon. Et puis, ça renvoie à une critique à la fois de la société et même à une position questions, je dirais, existentielles. C'est-à-dire que ben, là, par exemple, il conclut en se demandant est-ce que une vie normale, qu'est-ce que c'est que la normalité dans le système où on est, etc. Et est-ce que c'est pas, même sans parler de la société, est-ce qu'il n'est pas naturel d'être angoissé, stressé par le simple fait d'être sur Terre ?
Déjà.
Tu vois, je veux dire, non, mais c'est vrai. Et donc, si tu veux, c'est une position qui est à la fois politique et philosophique, je dirais. Donc, ça m'a beaucoup marqué. Et puis, la description aussi, dans les deux cas, enfin, de Claire ou Roger Gentis, la description de ce qu'est la réalité des, entre guillemets, des malades et dans quelle mesure c'est pas le remède qui est largement, enfin, c'est une question rhétorique. Oui, évidemment, le remède est pire que le mal, quoi, tu vois. Bon, donc, ça vraiment intéressant.
C'est vrai que dans le remède, entre guillemets, remède, il y a un phénomène aussi d'exclusion et peut-être même d'écrasement.
Oui, tout à fait. Et puis, c'est toute une vision du monde dont c'est le symbole, dont c'est la partie la plus visible, oui. Finalement, qui ressort dans la façon dont on envisage ces, entre guillemets, déviants, quoi.
Ouais.
Voilà. Donc, j'ai vraiment trouvé ça très, très intéressant. Et je sais pas, est-ce que tu voudrais lire un extrait, peut-être
Oui.
Ben, parce que la question qu'on pourra se poser aussi, peut-être tout à l'heure, c'est dans quelle mesure, que ce soit la vision générale que les gens ont de cette déviance et des troubles psychiatriques, et puis la vision de la psychiatrie elle-même, qu'est-ce qui a réellement évolué dans la société, quoi, puisque ça date de 68 et tout, est-ce que les choses ont vraiment évolué depuis globalement, enfin voilà. Donc il cite un ingénieur lecteur du Monde qui habite à proximité d'un hôpital et qui écrit dans un numéro du Monde de 88, donc n'est-ce pas, c'est pas n'importe qui, c'est quand même un ingénieur et tout, tu pourrais être... Quand on est naïf, on se dit tout de même, ces gens qui ont avalé des bibliothèques et qui ont des diplômes, quand même, ils pourraient avoir une vision un peu moins ridicule, si tu veux. Voilà. Mais non. Donc c'est à partir de... Oui, voilà, c'est la citation d'abord et puis les commentaires, oui. Tu vois.
Donc...
Voilà, donc c'est un courrier qui a été publié par Le Monde, en tout cas.
Citation de l'ingénieur.
Voilà.
Je ne parlerai que du régime dit de semi-liberté, méthode nouvelle, consistant à laisser circuler des personnes irresponsables dans les rues d'un village. Or, ces allées et venues troublent la tranquillité des habitants par quantité de faits que chacun peut d'ailleurs imaginer. Tenues vestimentaires parfois plus que critiquables, entrées dans les propriétés privées, promeneurs accostés à brûle-pourpoint, tubes de médicaments abandonnés. Mais il est inutile et peut-être charitable d'allonger la liste de ces griefs. En réalité, quand le médecin s'exprime sur l'utilité de la libre circulation des malades mentaux dans une agglomération, il songe à son objectif professionnel. Il estime peu importante, en comparaison, la gêne procurée à une population que l'on n'a pas consultée en la circonstance, et qui participe bon gré mal gré au traitement des malades, ce qui, pour une fois, a le mérite de ne rien coûter aux établissements hospitaliers. Ceci fait songer à ces industriels qui déversent, pour plus de commodité, des torrents de détergents et autres produits dans les eaux d'un fleuve, jusqu'au moment où les riverains peuvent enfin faire entendre leurs protestations. Pour en revenir au cas qui nous occupe, les habitants de Villiers-sur-Orge pourraient s'imaginer faire un peu partie de l'asile d'aliéné proche. Je ne sais si les familles des trois médecins habitent la localité. Dans l'affirmative, j'aimerais connaître l'opinion de ces familles, et en particulier celle de la maman en voyant son petit garçon ou sa petite fille à l'école par les chemins fréquentés par les malades. En résumé, la nouvelle thérapeutique est peut-être efficace, mais est-ce prouvé ? En tout cas, elle déborde du domaine appartenant au médecin, à savoir l'hôpital, et ceci d'une manière arbitraire. Fin de citation.
Donc il y a les commentaires de
Roger Gentis.
Oui, je trouve que je les ai trouvés intéressants.
Juste après. Cette lettre est tout à fait passionnante, car elle montre bien comment un monsieur qui, lisant Le Monde, doit passer dans son entourage pour quelqu'un d'intelligent, en arrive à dire absolument n'importe quoi sur ce sujet, à argumenter sur des suppositions purement gratuites, à fabuler même. Remarquons d'abord que pour lui, il est parfaitement explicite à cet égard, les malades mentaux sont assimilables à des déchets qu'on ne saurait sans abus déverser tels quels dans la nature. C'est bien ce que je disais, la station d'épuration n'est pas loin. La guérison des malades est, je cite, « l'objectif professionnel des médecins ». Rien de plus comme la fabrication des radis est l'objectif professionnel des maraîchers. Le sauvetage des noyés, amateurs, est aussi l'objectif professionnel des sauveteurs professionnels et l'approvisionnement en sang des services de chirurgie, celui des donneurs professionnels, on ne voit pas pourquoi un quidam se sentirait concerné. Ce monsieur reproche aux médecins de ne pas consulter la population avant de lui imposer la gêne du contact avec les malades. Consulte-t-il, lui, les malades avant de demander qu'on les enferme ? Se soucie-t-il de la gêne que cela peut entraîner pour eux ? Gêne qui, probablement, n'a aucune commune mesure avec celle dont il parle ? Est-ce que... Alors, il y a des notes... Mais oui. La note est très longue, peut-être.
Oui, je sais, vous,
je la lirai peut-être à une autre occasion. À lire cette lettre, on ne peut en effet s'empêcher de penser que la gêne apportée à la population, entre guillemets, si ce n'était l'idée qu'on s'en fait, n'a pas l'air objectivement bien terrible. Ah, certes, il serait effectivement dangereux de laisser traîner n'importe où des tubes de médicaments, mais depuis quand donne-t-on les médicaments en tubes aux malades hospitalisés ? S'il y a tube ou tout autre conditionnement, il ne vient certainement pas de l'hôpital où les médicaments sont livrés par grosses boîtes. Il y a, hélas, dans notre société, bien des choses plus gênantes que la déambulation des malades mentaux, par exemple la bureaucratie ou l'échappement des automobiles qui nous empoisonnent à petit feu. On ne fait pas tant d'histoires. Et puis, que va imaginer ce monsieur à propos des petits garçons et des petites filles ? On aimerait bien savoir à quoi il pense. Il ignore apparemment qu'il y a, dans tous les hôpitaux psychiatriques, une proportion notable de personnel logé, à commencer par les médecins justement, dont les enfants vivent souvent littéralement au milieu des malades et ne s'en portent pas plus mal. C'était en 1970. Ça a changé depuis. Quant à la nouvelle thérapeutique, entre guillemets, elle est peut-être nouvelle pour les voisins de l'hôpital de Père et Vaucluse, ce qui montre bien la hauteur des murs. On habite à côté d'un hôpital psychiatrique et on ne sait rien sur la psychiatrie. Elle ne l'est certainement pas en soi. Ce qui a été nouveau en son temps, c'est d'enfermer les malades comme on l'a fait massivement en bloc sans détailler. Ce qui est nouveau, c'est d'enfermer les grands arriérés, genre idiots du village, qu'il n'y a pas tellement longtemps on gardait encore dans les familles, et qui vivaient dans la population sans que cela pose de problèmes particuliers. J'en ai connu plusieurs dans la Haute-Loire quand j'étais gosse. Ils me faisaient beaucoup rêver et je me posais des tas de questions pas du tout idiotes, pas du tout inutiles. Merci à eux. Leur aspect peu décoratif qui rebute aujourd'hui ne semblait pas, il y a quelques décennies, choquer autant. Est-ce un progrès ? Ce qui est nouveau, c'est qu'on enferme de plus en plus, qu'on relègue de plus en plus, qu'on se débarrasse de plus en plus de ce qui gêne, les arriérés, les vieux, les ivrognes, bientôt peut-être les contrefaits, les éclopés, et tous les infirmes pendant qu'on y est. Pourquoi tolère-t-on des infirmes dans les rues ? N'est-ce pas affligeant pour la vue ? Ne conviennent-ils pas au règlement ? Contreviennent-ils pas au règlement d'urbanisme ? Et si l'un d'eux vous aborde à brûle-pourpoint, comme dit l'autre, un aveugle avec des yeux tout blancs, dites, ou un paralysé avec la gueule de travers, bien baveuse, gnie, et un grand brûlé qui viendrait vous demander du feu ? Quelle tête feriez-vous, je vous le demande, vous tous, lecteurs du Monde et du Nouvel Observateur ? Vous savez bien qu'on ne peut pas voir ce qu'on pourrait être. On ne peut pas voir ce qu'on peut devenir, ce que peuvent être vos propres enfants. Jusqu'au jour où ça vous tombe sur la gueule à vous aussi. Ça vous fait un peu les pieds, et c'est fou ce qu'on découvre alors, toute la vacherie de la condition humaine qu'on ignorait farouchement, bêtement, désespérément.
Ouais, tu... Est-ce que, par exemple, t'as le sentiment que ça a changé, enfin, le regard des gens, y compris super cultivés, n'est-ce pas, sur ce qui offense la vue, enfin, sur ce qui est Bah, déviant, moi, évidemment, je mettais avec des guillemets, mais ce qui, simplement, n'est pas dans les clous, quoi. Tu as le sentiment que ça a changé? Parce que moi, j'ai des exemples, même récents, de réactions de Rivin qui n'avaient jamais réagi à rien, et qui, aussi, quand on dit qu'on va faire... Même, il parle des handicapés physiques, mais j'ai vu ça même avec un centre où ils devaient mettre des enfants qui étaient handicapés physiquement. Et les riverains avaient réagi en disant « ça va traumatiser les enfants », que ça traumatise absolument pas d'ailleurs, mais c'est eux qui ils pouvaient pas supporter ça. Bon, quand ils sont un peu francs, ils disent « et en plus ça fait baisser le prix des logements », mais si ça fait baisser le prix des logements, c'est parce que il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est une nuisance, le simple fait que... Et c'est, tu peux même pas te réfugier derrière l'idée de « oui, mais si c'est des fous dangereux ou quoi », la simple vue de ce qui est hors norme est juste insupportable. Mais je l'ai vu plusieurs fois. J'ai vu une fois à Saint-Étienne-de-Rouvray, j'ai vu à Ivry, des riverains comme ça, ils voulaient pas qu'il y ait un centre pour les enfants trisomiques ou atteints. Enfin, donc tu vas pas me raconter que c'est qu'ils ont peur de quoi que ce soit. Donc c'est vraiment que cette idée qu'il faut chasser de la vue tout ce qui peut être, qui peut faire un peu désordre, que toi, cette comparaison que fait le mec avec des ordures, avec des avec des déchets, et c'est exactement ça en fait.
Oui, d'autant plus que quand il y a vraiment des déchets industriels dans les rivières, la population peut parfois bien se plaindre s'il n'y a pas de réaction des autorités. Mais enfin, ça c'est une autre histoire. Ouais, alors il y a un regard peut-être eugéniste en fait, général dans la société.
Oui, mais enfin moi c'est le sentiment que j'ai quand je vois des réactions comme ça, quoi. Oui. C'est de toute façon quelque chose qui est assez angoissant. Et quand je te dis, c'est des gens que j'avais jamais vu, les riverains, réagir ni au fait qu'il y ait trop de circulation ou effectivement qu'il y a un problème écologique quelconque ou de nuisance quelconque, mais ça ils peuvent pas supporter ça. Tu vois, si par exemple aussi à l'école où étaient mes enfants, à un moment donné, ils avaient voulu mettre dans une classe un enfant trisomique, et il y avait eu des réactions extrêmement vives et violentes de la part des parents. On peut pas mettre en contact avec notre enfant, etc., quoi. De toute façon, il y avait rien. Enfin, je veux dire, même d'un point de vue purement pratique. Il y a des choses qu'il faut faire, si tu veux, dans ce cas-là, parce que par exemple, il faudrait, quand un enfant est handicapé, même physique, il faut qu'il soit, qu'on lui aide, par exemple, mettons qu'il soit aveugle, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit avec lui. Et rien n'est prévu pour ça. Et en effet, on les met au placard et on n'en parle plus, quoi. Tu vois, c'est pas... Et pourtant, le rejet, plus tard, le rejet peut venir même dès qu'il y a la moindre, dès qu'il y a la moindre différence d'un enfant, comme je le sais pour avoir eu un enfant qui a eu un strabisme jusqu'à la fin de la primaire, on va dire. C'est très très violent. Mais quand ils sont à la maternelle, pas du tout. Tu vois. Et de toute façon, on pourrait quand même faire que malgré tout, on essaye de lutter contre ce rejet, quoi. Et est-ce que ça vient vraiment spontanément des humains, ou est-ce que c'est pas le reflet de tout un état d'esprit de la société, ce rejet même des enfants envers quelqu'un qui est différent, que ce soit dans son comportement ou que ce soit dans son aspect physique? Non, je sais pas comment tu le...
Ah bah, tu poses une question à laquelle je serais incapable de répondre, dans le sens où à quoi ça remonte jusqu'à... Historiquement...
Il parle, Roger Gentil parle des idiots qui faisaient, enfin des idiots entre guillemets, qui faisaient partie des familles et de la population, sans que les gens tombent évanouis à l'idée de les croiser quand même. Oui. C'est lui qui en parle, et ça a l'air vrai quand même.
Ben oui, parce qu'il y avait encore des endroits où il n'y avait pas de... On va parler aujourd'hui de validisme. En psychiatrie, quand même, à une époque, on stérilisait les femmes pour pas qu'elles aient d'enfants parce qu'elles étaient folles.
Ah oui, d'accord. Ça remonte à quand, ça?
Ben, ça devait être au 19e siècle. C'était...
Mais donc, en fait, c'est... ce serait quelque chose qu'il faudrait arriver à vraiment dépasser, mais de façon profonde, parce que ce serait profond, ce rejet de la normalité, entre guillemets.
Oui. Oui, c'est vraiment le... Bon, oui, c'est, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est un regard eugéniste où l'on voit n'importe quel... anormalité, on la repère tout de suite en disant, enfin voilà, je sais pas, c'est, en disant ça va pas. Il faut corriger ça tout de suite ou alors on le jette à la poubelle.
Je me dis, je vois une hypothèse, mais enfin, on est censé en tant qu'être un peu plus évolué que des blattes ou quoi, pouvoir dépasser la logique naturelle, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'en effet, la logique de la nature, que c'est quand même l'idée de la sélection. Donc, en effet, il faut. Il y a des gens pour dire ça encore. On laisse survivre des créatures humaines qui ne devraient pas survivre parce que ça nuit à la pureté de l'espèce. Enfin, cette logique-là, c'est une logique qui est naturelle, sauf qu'on n'est pas censé obéir à le. Enfin, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Les gens qui vont avoir recours à cette idée-là sont des gens que la nature aurait sans qui serait même pas né. Enfin, est-ce qu'on serait, on aurait survécu en tant qu'espèce on avait dû se fier qu'à la nature.
Est-ce qu'un animal pense pureté ? Je sais pas.
Si ah non, je pensais pas à penser. je me suis mal exprimée. Oui. Quand je parle de logique, ça veut pas dire une logique consciente. Si tu veux, l'idée de la sélection naturelle.
Oui, c'est question naturelle, d'accord.
Et pas quelque chose, la nature, c'est pas Gaïa, c'est pas un truc qui a des intentions, oui. Mais il y a l'idée que tu vois, par exemple, de l'idée que la reproduction serait quelque chose qui serait une sorte de mouvement autonome justement, qui ne serait absolument pas pensé, ni par la nature, ni par les animaux, mais que tout de même, se reproduire, les animaux qui font ce qu'il faut pour se reproduire n'ont aucune intention, et la nature n'a aucune intention, parce que c'est pas un individu conscient, c'est une espèce de logique, quoi, tu vois, l'idée que les animaux se reproduisent, et que quand ils sont confrontés à une nature hostile, ce qu'elle est quand même très souvent, c'est l'espèce la plus costaud qui va pouvoir affronter ça, et que quand tu, moi je te répète un peu ce qui se dit, mais c'est vrai que par exemple quand tu mets du DDT, mettons, les individus qui sont les plus résistants à un produit toxique comme ça, vont former une nouvelle souche résistante. Oui. Donc, si tu veux, l'idée que... et puis, ça paraît pas illogique te dire qu'en effet, tu vas mieux affronter la nature si jamais tu es plus solide, et que plutôt que quand tu nais très malade, etc., tu vois. Mais en même temps, heureusement, on n'est pas des animaux dénués de conscience et de raison, donc on dépasse cette idée d'obéir à une par exemple à la sélection naturelle, à la logique de la nature. Toi, je ne sais pas si tu as connu Sylvie de Parole d'Association.
Bien sûr.
Voilà, donc si tu peux décrire un petit peu, elle avait la maladie des os de verre. Oui. Elle est décédée maintenant, mais elle m'avait dit une fois, et ça m'avait vraiment beaucoup perturbée, parce qu'elle m'avait dit que le fait de savoir que si sa mère avait su qu'elle avait cette maladie, elle l'aurait empêchée de naître. Alors, évidemment, elle m'a dit, je suis pas devenue anti-avortement pour autant, mais ça me perturbe quand même comme idée. Bah, j'ai dit, maintenant, c'est fait, on va pas revenir en arrière. Mais, en effet, je pense que rares sont les femmes qui se disent, pourvu que mon enfant ait la maladie des os de verre. Tu vois. Donc, c'est quelque chose qui est très, très perturbant.
C'est moins la perfection de l'espèce qui est recherchée que le rejet de l'anomalie.
Ben, c'est pas seulement l'anomalie, parce que je veux dire, la maladie des os de verre, enfin, si tu te rappelles la vie qu'elle avait, oui. C'est quelque chose qui est très, enfin, que tu peux pas souhaiter à ton enfant. C'était vraiment très, oui. Très dur, son quotidien. Donc il y a ça aussi, et en même temps c'est pas seulement, je veux dire, il y a des anomalies, tu te dis, si c'est visuel, c'est subjectif, mais le problème de Sylvie était au-delà de l'aspect ça te perturbe de la voir. Sa vie était pas facile, et pourtant elle aimait la vie. Elle était dynamique, elle faisait des tas de choses. Déjà l'émission Parole d'association, mais elle était investie dans des tas d'associations. Elle avait des amis. Elle aimait la vie, quoi. Elle avait pas du tout envie de. Enfin, elle était contente d'être au monde, quand même. Donc, si tu veux, ça pose des questions extrêmement perturbantes, je trouve. Et donc, être confronté à ça, c'est tu peux avoir une conduite d'évitement à ce type de questionnement. Tu vois ce que je veux dire?
D'évitement à la question de ce...
C'est évidemment pas de... Enfin, je veux dire, je suis pas anti-avortement, évidemment.
Oui, oui.
Mais à la question de, justement, de cette... de ce rejet de... Enfin, de ce validisme, quoi, oui. Finalement. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça peut se manifester sans que tu t'en aies vraiment conscience? Quand tu fais une amniosynthèse, c'est que
une amniosynthèse, oui.
Oui, voilà.
C'est que tu veux le savoir à l'avance.
À l'avance, et si jamais si tu veux le savoir alors que ça présente un petit danger, c'est que bien entendu, tu as l'intention d'avorter si jamais c'est enfant trisomique.
L'amniosynthèse, c'est une analyse du placenta au moment de la grossesse.
Voilà, avec l'ADN, on est sûr. Oui. On est sûr et certain. C'est plus fiable que l'échographie, on va dire. Mais quand tu vas faire une amniosynthèse, ce qui est possible qu'à partir de 38 ans, je crois bien. Sinon, il faut que tu payes plein pot et tout. C'est que tu as l'intention d'avorter derrière, sinon pourquoi tu le ferais?
Oui.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, et en même temps, c'est compliqué. Je peux pas dire personnellement. Si ça avait été un enfant, effectivement, avec la maladie des os de verre, je crois que ça peut il y a différentes maladies comme ça.
C'est vrai qu'en effet, j'avais croisé une femme aussi qui, justement, parlait de l'amniosynthèse. Je trouvais que c'était une bonne invention parce que, justement, si elle avait un enfant trisomique, elle le laisserait pas naître.
Mm-hmm.
Elle lui disait elle-même.
Voilà, donc alors en même temps c'est facile vu de l'extérieur de dire t'as qu'à t'en occuper, tu verras, tu l'aimeras autant, etc. Mais tu te dis ouais mais enfin par exemple ils vivent pas très vieux, qu'est-ce qui va se passer quand je serai plus là, est-ce que sa vie ça va être, surtout quand ils ont des problèmes des fois physiques très très graves, c'est toi qui vas devoir quand même assumer ce truc là. Au minimum, ayant rencontré des gens qui avaient eu un enfant comme ça avec des problèmes physiques graves, enfin qui n'étaient pas seulement le regard des autres, quoi, tu vois. Mm-hmm. Eh bien, il disait de toute manière, on va déjà dire quand même trois mots sur comment la société aide ces enfants-là, quoi, tu vois. Voilà. Enfin, bon, c'était c'est déjà ce passage est quand même assez édifiant parce que la façon dont ce type l'envisage, c'est vraiment vraiment le fond de la saloperie, quoi, vraiment.
Ouais,
ouais. Oui, enfin, ouais. On va peut-être passer une musique, non?
Oui.
Qu'est-ce que tu nous proposes comme musique?
Brigitte Fontaine.
Ok, super.
Je suis concierge rue de Bussy. Dans mon immeuble, y a que des penseurs. C'est moi que je suis leur égérie. Je fume la pipe et je mange des fleurs. Je suis décadente. Le matin, quand je fais mes escaliers, avec mes pauvres jambes avarices, je pense à Sisyphe et son rocher qui retombait dans un précipice. Je suis décadente. Il veut me faire ma fête, je lui dis à quoi bon, très amère. Il me répond pourquoi pas, c'est bête, j'ai épousé un gars primaire. Je suis décadente. Quelquefois quand je me sens trop lasse, sur ma porte je colle un papier, je mets la concierge et dans l'angoisse qu'il se débrouille pour le courrier. Je suis décadente. Mais le suicide quotidien, ce n'est vraiment pas une vie. Le désespoir, ça n'est pas sain. On s'en lasse et sans les dit d'être décadente. Sentir qu'on n'est rien ici-bas, cela conduit à tous les vices. Fumer de la marijuana, c'est mauvais pour mes rhumatismes. Je suis décadente, le désespoir, j'en ai ma dose. Je vais prendre une place à Passy, là au moins je serai quelque chose. Et puis j'aurai foi en la vie, je serai méritant. Et avoir un rôle et d'être voix, je me peindrai plus les ongles en noir, je mangerai un yaourt tous les soirs. Quand je serai psychiatre, avenue Mozart.
Voilà, c'était Brigitte Fontaine, je suis décadente. Alors, autre extrait de Les murs de l'asile de Roger Gentis. Je reviens à un autre entrant qui entre dans l'institution. Dûment observé, jaugé, inventorié, catalogué, ayant parcouru la filière de la moulinette à décervelés, il n'y a plus tellement d'inconvénients à reconnaître que son comportement n'est pas à proprement parler pathologique. On écrit sur le rapport qu'il va mieux, que son comportement s'améliore. Attention, s'il est maintenant normal, c'est qu'il l'est devenu. C'est par rapport à l'état pathologique antérieur que le bien est défini comme mieux. Si, à présent, tout ceci a moins d'importance, c'est que l'opération essentielle est déjà consommée. L'essentiel, c'est que l'entrant ait été marqué de l'estampille de la maladie. Il porte désormais le cachet de l'asile, le sceau indélébile de la psychiatrie. L'entrée à l'asile a par elle-même valeur de marque. Celui qui s'y est trouvé pris une fois est pour beaucoup de gens classé. Ceci est encore très apparent aujourd'hui. On entend couramment dire « un tel a été chez les fous » ou plus poliment « il a été en psychiatrie »« il a été à l'asile ». Cette référence dispense de commentaires. Peu importe que les « maladies mentales » entre guillemets soient fort diverses, qu'il y en ait de graves et de bénignes, de tapageuses et de secrètes, ce qui compte, ce qui désigne, c'est le passage de la ligne, c'est d'avoir une fois franchi la frontière qui sépare le dedans du dehors, le monde des normaux et de celui des cinglés. En Italie, l'internement est consigné sur une espèce de casier judiciaire. Cette mention vous suit ultérieurement, ce foutu papier vous colle aux fesses, votre vie durant. Et pourtant, les circonstances qui conduisent quelqu'un à l'asile sont elles-mêmes très diverses. Il est bien certain que l'hospitalisation découle dans une majorité de cas d'un trouble mental plus ou moins caractérisé, ou du moins de ce que l'on appelle trouble mental, il faudrait encore savoir ce que ça veut dire. Mais le pourcentage de cas dans lequel le sujet a vraiment perdu la boule est incapable de vivre hors de l'hôpital et a absolument besoin d'un traitement hospitalier, cette proportion est tout compte fait bien minime. Presque partout, la décision d'hospitaliser est prise n'importe comment, sans aucune doctrine, dans la pagaille, sous la pression des événements, par des gens, médecins compris, qui ignorent tout de l'intérêt réel d'une hospitalisation et des possibilités thérapeutiques qu'elle offre, et qui ignore encore davantage, parce que ça arrange tout le monde d'ignorer cela, que l'hospitalisation psychiatrique est souvent inopportune et empêche tout véritable traitement. C'est comme si le chirurgien trouvait le matin, en arrivant dans son service, les entrants avec un petit mot épinglé à la veste, prière d'enlever l'estomac à monsieur un tel, signature du médecin de famille, ou je ne peux plus supporter que mon mari louche, arrangez-lui ça ou je fais un malheur, signature de l'épouse, ou encore tout le quartier se plaint que monsieur X fait faire des cauchemars aux enfants, si vous ne pouvez pas le redresser, gardez-le quelque part qu'on ne le voit plus, signature du maire. On se gourre complètement si on pense que l'hôpital psychiatrique est fait pour soigner. Ça, c'est la façade, la vitrine, la raison sociale. En réalité, l'hôpital psychiatrique est fait pour débarrasser les gens d'un certain nombre de problèmes emmerdants qu'on ne veut pas se donner la peine de résoudre ou que la société n'est pas organisée pour résoudre. Par exemple, les vieillards. tout le monde sait ce qu'il faudrait faire pour eux. Aménager la vie sociale pour qu'ils y conservent leur place, une vraie place, avec le droit à la parole et celui de continuer à mener sa vie comme on l'entend, et de l'argent pour pouvoir faire encore quelque chose de son existence, et du temps qui passe si vite à cet âge, et de vrais soins médicaux, préventifs autant que possible, pour maintenir en état de marche une mécanique qui commence à flancher un peu. Eh bien ça, il paraît que c'est vachement difficile à obtenir. Sans doute qu'on n'a pas les moyens, et puis les vieux ça coûte cher, et ça rapporte que dalle, sans compter que ça pue, que ça crache et que c'est tout le temps dans vos jambes. Alors on continue à les entasser dans des dortoirs, à les manipuler comme des paquets, et à leur dire « écrase un peu grand-père, on t'a assez entendu, chacun son tour de causer ». Alors quand un vieillard réplique à l'hôpital psychiatrique, les trois quarts du temps c'est pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la médecine ou un traitement quelconque. Parce que les enfants déménagent, ou qu'ils n'ont pas voulu payer un loyer plus cher pour donner une pièce aux vieux, ou parce qu'ils ont un gosse de plus et qu'il faut faire de la place à la maison. Ou alors, c'est que le vieux s'est mis en colère et a voulu se faire entendre, pour une fois, il faut quand même qu'il comprenne, il faut lui faire un peu les pieds. Il y a 20 ans, bien sûr, les gosses ne bronchaient pas quand le père se foutait en rogne. C'était bien plus terrible et bien plus souvent que maintenant, mais voilà, les rapports de force n'étaient pas les mêmes. Et peut-être bien qu'on se souvient de ce qu'on a subi en silence et que maintenant, on est bien content de pouvoir enfin lui arriver son clou et qu'il se mette bien dans la tête que c'est lui qui a besoin de nous. Fermeture de la parenthèse. Ou qu'il continue à s'intéresser un peu trop aux femmes et que ça commence à faire jaser vu son âge, etc. Les certificats mentionnent bizarrement érotisme sénile. À mon avis, ce serait plutôt signe de verdeur. Ou trouble du comportement, ou intenable en famille, use son entourage. C'est que, bien conseillé, les gens ont intérêt à larguer leur vieillard en milieu psychiatrique, on passe même sur les préjugés, le qu'en dira-t-on, la réputation de la famille. À l'hôpital, c'est la sécurité sociale qui paye. À l'hospice, on vous demande quelque chose, alors il faut bien lui trouver une maladie. C'est ainsi que la condition sociale des vieillards s'installe subrepticement parmi les espèces pathologiques. Beaucoup de vieillards, il est vrai, sont expédiés à l'asile par les hospices ou maisons de retraite qui habituellement se vident par regorgement sur l'hôpital psychiatrique. Lorsqu'on a besoin de lits, que le service de médecine doit lui-même se faire de la place ou que le conseiller général veut soulager de son vieux une famille qui ne manque pas de voix, on choisit les trois ou quatre dont la gueule ne vous revient pas, les plus grincheux ou les moins propres, et on les emballe pour l'asile. Habituellement, c'est la surveillante de la salle. Surtout qu'il s'agit d'une bonne sœur qui a la haute main sur ses livraisons, et le médecin rédige le certificat d'internement sans même voir le malade, entre guillemets. Le médecin sait bien qu'il ne faut pas contrarier la sœur s'il ne veut pas être emmerdé, et puis, comme il ne met jamais les pieds à l'hospice tout en continuant à être payé pour ça, il faut bien qu'il reste en bon terme avec elle. Point. C'est ainsi que nous avons vu arriver un jour un paralytique confiné au lit depuis des mois avec un certificat le déclarant dangereux. Un autre malade, qualifié de dément, avait fait une forte dose d'urée sanguine qui lui brouillait un peu les idées. Le médecin à qui je demandais quelques explications au téléphone dut reconnaître que c'était la surveillante qui lui avait fait signer le certificat et qu'il n'avait pas pris le temps d'examiner le malade. Voilà. Bon, déjà,
oui, donc, voilà, déjà.
Je rappelle que quand même que ça se passe en 1970, et que il y a eu quelques petits changements par rapport à l'Italie, par exemple. On parlait en Italie, l'internement est consigné sur une espèce de casier judiciaire. Mention qui vous suit ultérieurement toute votre vie. Bon, c'était juste avant. Ce livre a été écrit juste avant la réforme qui a eu lieu en psychiatrie par l'action du psychiatre Franco Basaglia et de ses collègues qui ont abouti à la loi 180 qui fermait tous les hôpitaux psychiatriques en Italie.
Donc ils n'ont pas d'hôpital psychiatrique en Italie.
Alors maintenant, si quand même, parce que bon, il y a déjà la psychiatrie privée qui s'est installée aussi. Bon, puis
tout s'explique.
Voilà. Est-ce que je peux continuer à lire des trucs ou...
Oui, si tu veux. Oui,
Voilà, je te laisse regarder.
Ouais, je ne sais pas si je t'ai dit tout à l'heure, mais j'ai trouvé que la fin a un côté... Enfin, on sent le gars qui... Comment dire, qui a vraiment pris un coup, quoi, tu vois. Il y a un passage, j'espère que je l'ai... C'est un truc par rapport à ce qu'il dit sur l'idée qu'on pourrait réformer la psychiatrie. Il a vraiment pas l'air de... Enfin, il a l'air très dubitatif, pour être gentil, sur cette idée d'une réforme de l'intérieur, quoi.
C'est ça qu'il en a fait l'expérience, étant donné qu'il a travaillé avec des gens qui ont élaboré la psychothérapie institutionnelle, qui était une espèce d'alter-psychiatrie, avec une orientation plus vers un vrai traitement... psychologique, c'est-à-dire aussi avec un apport de la psychanalyse et puis des activités, des formations, des choses comme ça. Mais oui. Ça n'a été que, en fait, la psychothérapie institutionnelle. C'est un exemple connu, c'est Laborde. Hein, ça n'a jamais empêché la psychiatrie conventionnelle d'être dominante et de se poursuivre.
Ben sinon, donc oui, ça, je retrouve pas là comme ça. Je regarderai tout à l'heure. Le marque-page a dû sauter. Le passage où il dit tout le bien qu'il pense, enfin tout le mal qu'il pense, de ceux qui, pleins de fougue, se disent on va réformer l'hôpital psychiatrique. Comme ça, ils sont plein de toutes sortes d'idées, etc. Mmh. Mais, oui, là, il y a un passage comme ça, par rapport aussi au fait de dire, sur l'idée, c'est un peu le reflet de la société, mais aussi, c'est quoi finalement la différence entre la conception qu'il y a de la vie, entre guillemets, en hôpital psychiatrie, et puis pour beaucoup de gens, pour la plupart des gens, qui par exemple travaillent, quoi, tu vois, et qui travaillent et qui sont laminés aussi. Enfin, qu'est-ce que c'est que leur vie? Attends, je te dis, c'est à partir de... Silence, routine, immobilité, tu vois. Oui.
Silence, routine, immobilité, ouais. C'est la devise de l'asile. Il vise en douce l'éternité. Il voudrait bien s'en payer une tranche. Les fous, le folklore les aime plutôt un peu vifs, le bruit et la fureur, les cris de bêtes, la violence animale, l'agitation forcenée, le jerk à jet continu. Convention que tout cela, pour un vociférant, 20 muets, pour un agité, 100 statues. Et encore, l'agitation n'est-elle le plus souvent elle-même que routine, monotonie en mouvement. Il y a généralement à l'asile une immense complicité, une merveilleuse concordance de vues entre les aliénés et leurs geôliers, que rien ne bouge, que tout reste en état, que la vie se poursuive ainsi, jour après jour, toujours la même, jusqu'à la mort. Surtout, ne pas changer, tout changement est menace, angoisse, danger. Faire comme si tout était bien ainsi, s'organiser méthodiquement, minutieusement, pour bloquer le mécanisme, l'idéal, c'est le cycle court, la même chose à la même heure, chaque jour que le bon Dieu fait, indéfiniment, pour les siècles des siècles. La chronicité, l'asiliation, il faut en avoir mesuré le poids, la force d'inertie, lorsqu'on ne se satisfait plus de voir des centaines de malades encore jeunes, engoncés dans une existence rétrécie, sans autre horizon que les murs de l'asile, sans autre avenir que la répétition assidue quelques milliers de fois, le nombre de jours qu'il y a dans une vie, du même geste à la même heure, tes mêmes paroles à la même heure. La soupe, au lit maintenant, debout là-dedans, une vie durant, une vie apparemment satisfaite d'elle-même. Il faut s'y coltiner pour y croire. La résistance au changement est résistance active, puissante, dynamique. Ces gens-là ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas d'une existence que nous jugeons meilleure. Ils ne se plaignent guère de leur sort, sauf assez souvent pour demander une amélioration de l'ordinaire. Mieux bouffer, c'est à peu près tout ce qu'on demande. Le reste, il semble que ça n'intéresse personne. Vous vous trouvez bien ici ? Très bien. Quelque chose qu'on pourrait améliorer ? Non, rien, c'est très bien comme ça. Ce dortoir de 80 lits, ça ne vous gêne pas ? Non, c'est bien, on est bien. Vous ne préféreriez pas une petite chambre pour vous tout seul ? Non, je suis bien, ne me changez pas. Surtout, ne me changez pas, docteur. Tout cela laisse un peu perplexe. Ça pose bien des questions. Et d'abord, qu'est-ce que ça vaut cette vie meilleure que nous voudrions pour eux ? Qu'est-ce que ça vaut ce modèle de vie que nous leur proposons ? L'autonomie, c'est-à-dire peut-être la solitude ? Les biens de ce monde avec les maux de ce monde, inutile de détailler. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? N'ont-ils pas raison, après tout, de préférer leur vie à eux, la tranquillité maxima, l'irresponsabilité quasi totale, attendre patiemment de crever sans histoire, n'est-ce pas une philosophie qui en vaut une autre ? Un de ces philosophes me disait l'autre jour, « Qu'est-ce que vous voulez ? Ici, on a tout le nécessaire. Si vous voulez qu'on sorte, il faut nous donner le goût du superflu. » Autre question. Cette vie du dehors, cette vie normale vers laquelle nous les poussons, est-elle après tout si différente de la leur ? Le pilier d'asile qui se lève sagement à 7 heures, fait lentement sa toilette et le ménage de ses quelques mètres carrés de dortoir, déjeune calmement, va sans se presser à la corvée de linge, revient au pavillon pour mettre tranquillement la table, etc. Ou alors travaille 6 à 8 heures par jour dans une équipe, au jardin, à la buanderie, à la voirie, et regarde le soir la télévision et passe le dimanche après-midi à jouer aux cartes si la télé ne l'intéresse pas, ou à la pétanque si le sol est assez sec. Est-ce que vraiment ça le changera beaucoup quand il sera à manœuvre dans une usine ou manutentionnaire chez un grossiste, qu'il gagnera dans les 700 francs par mois, qu'il mangera ce qu'on lui sert à la cantine, qu'il continuera à regarder ce qu'on lui sert à la télévision, qu'il passera le dimanche après-midi au bistrot à jouer aux cartes ou à la pétanque s'il fait beau ? Qu'est-ce qui aura changé pour lui sinon qu'il sera un peu plus pressé, un peu plus harcelé, un peu plus emmerdé et qu'il n'aura pas davantage le choix de faire quelque chose de vraiment intéressant ? Pas davantage la possibilité de vivre autrement que pour subsister jusqu'à ce que mort s'en suive, après recyclage terminal en hospice, quand il ne sera plus bon pour le travail. De cette chronicité, tout le monde est complice. Le malade qui s'y complaît, le médecin à qui ça épargne bien du souci, avec si ça se trouve 300 malades dans son service, je vous demande un peu où on irait si on pensait qu'il y a encore quelque chose à faire, que tout n'est pas encore complètement foutu, que cette mort vivante n'est peut-être qu'une espèce de mauvaise habitude. Les infirmiers qui n'ont rien à foutre avec les chroniques, la chronicité travaille, elle se charge de toutes les besognes, elle se les assimile. Un chronique à qui vous enlevez sa corvée de vaisselle, c'est comme si vous lui ôtiez le pain de la bouche, l'air qu'il respire. Il souffre la mort et l'agonie, il peut réellement en crever. L'administration, dont la devise est toujours et partout « pas d'histoire ». Le chronique est l'administré idéal, celui dont on n'entend jamais parler, un élément numérique dans la comptabilité, et c'est tout, prénormalisé pour l'électronique. Attendant depuis 100 ans, comme la Belle au bois dormant, l'ordinateur qui vient enfin lui conférer sa pleine justification sociale. Le chronique est aujourd'hui la vache à lait de l'hôpital. Sa présence y fait entrer de l'argent, une véritable rente, 50 ans durant peut-être, et il ne coûte pratiquement rien. Sans lui, il faudrait sans doute doubler le nombre des employés et jamais un mot de protestation, jamais en grève, pas syndiqué, vraiment comme tout le monde devrait être. Encore une question qu'il pose, tiens, cette routine effroyable du chronique, cette résistance farouche au changement, cette crainte poignante du changement, est-ce si différent des autres conservatismes ? Il y a des millions de gens qui redoutent le changement, qui redoutent tout changement, pas seulement les profiteurs, les nantis, ceux qui ont vraiment intérêt à ce que ça ne change pas, mais un tas de pauvres cons aussi, de brimés, d'exploités, de minables, simplement par trouille. Les jeunes, on en a peur parce qu'ils ont envoyé promener vos habitudes. L'avenir, on en a peur parce que ça ne sera pas pareil qu'avant-hier. Il n'y a pas qu'à l'asile que les choses sont organisées pour durer, pour que ça change le moins possible. Il n'y a pas qu'à l'asile qu'on est obligé de se battre pour changer quoi que ce soit. les pires absurdités, les plus grosses conneries, les aberrations les plus invraisemblables. Il y a partout des gens, des millions de gens qui trouvent que c'est encore mieux que ce qu'on n'a jamais vu. Alors qu'est-ce que ça veut dire chronicité ? C'est vraiment une maladie ? Ça peut paraître bizarre, mais c'est à l'asile, entre les murs sinistres de l'asile, qu'on trouve sans doute la plus authentique, la plus pure réalisation d'un de nos rêves majeurs, d'un de nos mythes les plus fascinants, d'une des plus profondes aspirations du monde occidental, la société idéale, la société utopique, si parfaite que rien n'en saurait changer, si parfaite que chacun s'y satisferait de sa place et n'en voudrait point démordre, si parfaite que rien, vraiment rien ne s'y passerait, qu'elle tournerait parfaitement rond sur elle-même, que chaque chose, étant à sa place exacte, ne s'en écarterait si peu que ce soit, que chaque acte étant nécessaire, y reviendrait indéfiniment en son temps, si parfaite qu'elle en serait étale, que le temps finirait bien par s'y abolir, si parfaite qu'elle n'aurait plus d'histoire. C'est cela l'asile, le vœu profond de l'asile, nier le temps, arrêter l'histoire. Nulle part au monde n'a eu sens plus plein l'expression « tuer le temps ». Il n'y a pas d'événement à l'asile, uniquement des incidents, des ratés regrettables dans le fonctionnement du système. L'idéal a toujours été que rien ne s'y passe, et il y a presque réussi pendant un siècle. C'est tout de même pas si mal.
Peut-être une... On va passer une musique, je vais avoir le temps de retrouver ce qu'ils disent sur le...
Bah là,
sur
oui.
Ceux qui veulent réformer. Non, ça y est, on est au bout.
On arrive à la fin de l'émission.
Ah oui, mais... d'accord. Bah écoute, voilà, hein, c'est... Je pense que... Alors, le truc que je sais pas, c'est dans quelle mesure, parce que ça, c'est vraiment un collector d'époque, je vois.
Oui, aux éditions.
Est-ce qu'il y a des Spiro. Livres de Roger Gentis qui ont été réédités, enfin, qui sont disponibles.
Oui, je pense,
oui. Donc voilà, je pense que c'est quand même très très. Enfin moi, ça m'a semblé très intéressant.
Voilà. Oui.
Vraiment. Autant que je dirais que et pour les mêmes raisons que les naufragés de Patrick Declerc.
Mmh.
Donc je sais pas si vous pouvez en tout cas s'il y en a en circulation, vous pouvez les commander à la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e, la librairie de la Fédération anarchiste.
Métro Oberkampf, République ou Fille du Calvaire.
Bravo, t'as bien appris Tess.
Et puis nous sommes toujours donc, sur Radio Libertaire et c'était L'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, qui se termine dans 4 minutes. On va passer une deuxième chanson et puis donc on vous dit au revoir.
Et à la semaine prochaine.
Oui.
Ces lignes à mes complices inconsolables, à mes cassos, que les conseillers d'orientation ne savent plus caser. Obcicatrisé en sursis tous les marmots de la zone grise, genre agité trop bouillant dès la matière, à ceux qui se terrent dans un silence assourdissant, pour escaper de l'abattoir, à ceux qui mentent et ceux qui manquent. Premier couplet, comme pour planter le décor, détourner le destin, immaculer le poster. Quelques mots pour transgresser le mot d'ordre, pour gâcher le festin et provoquer le bordel. Bordel, de partout ça serait très si les médocs ont baïonné, l'asile et la ville. Cherche même pas une issue, tout autour c'est pareil. Des centaines de lieux clos ont jalonné nos vies. Bordel, où je traîne ma camisole, spare de toutes les douleurs. Nardena mort, sa turbine à la chienne, de la crèche à la morgue, à la longue les injures ont façonné les corps. Les vautours sont sortis, psychiatre fait tout nos fils, fait nos vies des parcours, promenade en zone grise. Pareil que je relève de la psy, y'a problème. C'est pas dit que je m'en relève ici. Prenez garde, chiant, mon garde à vous. Veux que tu te mettes à table, comme en garde à vue. Sale, peu de garde-fous, peu de cartes à jouer. C'est que le jeu est truqué, c'est que le proc fait l'arbitre. Et la nuit, l'infirmier dort paisible. Pendant que mes morts ou vivent, joue de la corde à vie, serre des dents. Moi j'ai de la haine à revendre, mais là je leur fais gratuite. Bienvenue dans les non-lieux de la raison médicale, où l'erreur est proscrite et la bête est humaine. L'horreur trop quotidienne, à la longue trop banale, n'a plus parfum de scandale. Bienvenue dans le meilleur des mondes où la route est balisée, pas avec bonnes intentions. Soyons sages, t'inquiète, il s'occupe de tout. Satan du sommet du juste. Second couplet, pour provoquer le désordre, pour peupler le désert et réveiller le désir de piller le bazar, de brûler le trésor. Ils courtisent l'histoire, on se fait baiser par le récit. Bordel, j'ai mal, t'as mal aussi, on ne guérira jamais, mais c'est peut-être mieux ainsi. C'est certain qu'à Sainte-Anne, ils en traitent par centaines de vrais mots, réduits à des symptômes. Mais bordel, on se soigne pas de ce monde, ils se rappellent à nous, partout, tout le temps. Dehors, les murs, dedans, la bombe, ça peut t'essouer à tout instant. Reste à savoir qui commence. Est-ce la terre ou nos têtes? C'est le même mouvement, on crache les mêmes poussières, même fumée, toxique, même carrière en friche, dont de grands savants veulent extraire la pierre de folie. Signe de ton sang, batte pas, joue sur les murs de ta cellule. La psy m'a tué, y'avait quelqu'un au fond de la cage. Rebelle, en colère, impatient, puis plus rien. Je vais peut-être être pénible une fois cette fête finie. J'aurais gratté quelques rimes avant le chaos technique. Vestiaire, maintenant je rejoins le bestiaire. Pas le choix, mes délires seront féconds ou bien alors mortels. Ou bien alors mortels. Bienvenue dans les non-lieux de la raison médicale, où l'erreur est proscrite et la bête est humaine. L'horreur trop quotidienne, à la longue trop banale, n'a plus parfum de scandale. Bienvenue dans le meilleur des mondes où la route est balisée, pas avec bonnes intentions. Soyons sages, t'inquiète, il s'occupe de tout. Satan du sommet du juste. Bienvenue dans l'envers du monde, les chemins sont tortueux et la folie féconde ou mortelle. Où pousse la mauvaise herbe, où le cadavre bouge encore et il cherche la sortie. C'est le bordel, carnaval des agités, la banda marginale, grain de sable dans le barillet. Le cauchemar des voisins, terreur de la bourgeoisie, la France oisive plutôt que leur France moisie. Bordel, c'est pour mes combattants, dans les luttes quotidiennes, autant au taf qu'au ch'tard. Irrésolu même quand c'est mort d'avance, que c'est la foire d'empoigne, que ça se tire dans les pattes. À mes parasites qui se regardent en face, tous ceux qu'on les mains dedans, mais qui lâchent rien quand même, c'est big up à ceux qui essayent, c'est la brèche, la mèche, la vraie cavale.